Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV. Nouvel épisode de notre balado, le service politique, avec Perrine Vasque qui suit le Parlement pour BFM TV et qui passe beaucoup de temps en ce moment à l'Assemblée nationale, parfois jusqu'au milieu de la nuit, pour suivre les débats sur la réforme des retraites. Débats qui prendront fin, quoi qu'il arrive, vendredi soir à minuit. Ensuite, le texte part au Sénat. C'est la procédure qui a été choisie par le gouvernement et qui est contestée par les oppositions, confrontée, elle, à un choix, notamment les députés de gauche, de la NUPES. Faut-il ou pas maintenir le nombre d'amendements très importants qui avaient été déposés, ou au contraire forcer le gouvernement à organiser un vote sur l'article 7, qui est l'article qui prévoit le passage de l'âge légal de 62 à 64 ans. Il y a des débats au sein de la NUPES, au sein même des Insoumis sur ce sujet-là, débats stratégiques. Combien et quand faut-il retirer des amendements? On va expliquer tout ça avec Perrine Vasque pour comprendre l'enjeu autour de l'article 7. Nous sommes le mardi 14 février et nous enregistrons cet épisode en début d'après-midi. Salut Perrine.
Salut Philippe.
Nous sommes mardi, début d'après-midi, ça veut dire qu'il reste une trentaine d'heures de débat avant la fin de l'examen du texte sur la retraite. Tout prendra fin vendredi soir à minuit. Mm-hmm. Il reste cet après-midi, ou plutôt ce soir, de 17h à minuit, demain, jeudi, vendredi. Qu'est-ce qui peut se passer dans les jours qui viennent? Quelle surprise peut-on voir apparaître dans l'hémicycle?
Alors si on est réaliste, on se dit que la seule surprise qui peut vraiment nous arriver, c'est pas un retrait du texte comme le demandent les députés du PS.
C'est peu probable.
Mais ça peut être une suppression de milliers d'amendements de la NUPES. Tu sais qu'il reste à peu près là 15 000 amendements, un petit peu moins je crois, parce qu'ils en ont retiré beaucoup hier. Ça peut être cette surprise-là. Mais la stratégie au sein de la NUPES, elle n'est pas du tout arrêtée. Il y a les insoumis, certains communistes qui s'interrogent quant à la possibilité et surtout au gain politique qu'ils auraient à parler ce fameux article 7, qui est l'article sur l'âge légal à 64 ans, et puis de le voter, comme le demande Philippe Martinez. Philippe Martinez, d'ailleurs, qui a mis un peu un caillou dans la chaussure de certains députés, justement, de la NUPES.
Hier matin, sur BFM TV, il a dit qu'effectivement, il souhaitait qu'il y ait un vote sur l'article 7.
Alors, du coup, les socialistes et les écologistes, ils sont complètement sur sa ligne. Et puis, du côté de certains communistes et certains insoumis, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'eux, ils se disent, en fait, si le vote passe démocratiquement, qu'est-ce qui sera dit sur les plateaux tout le week-end? Eh bien, c'est que l'article 7 est passé démocratiquement à l'Assemblée. Donc ça, aujourd'hui, on ne peut pas avoir la réponse parce que je pense que même eux ne l'ont pas. Sébastien Jumel, député communiste, nous disait tout à l'heure en conférence de presse, on ne vous dira ni où on va, ni comment on y va, parce qu'on ne veut pas que le gouvernement soit au courant.
On va juste préciser une chose. Donc, l'article 7, il y a 20 articles dans le texte. À l'heure où on parle, ils n'ont toujours pas terminé l'examen de l'article 2.
Absolument.
Ça devrait être fait assez rapidement en fin d'après-midi. L'article 7 est très important parce que c'est celui qui comprend le passage de l'âge légal de 62 à 64 ans. Et l'un des enjeux, effectivement, du temps qui reste et du nombre d'amendements qui ont été déposés par la gauche, c'est de savoir ou pas si la discussion ira jusqu'au moment où ils abandonneront l'article 7 et questions subsidiaires, y compris jusqu'à un vote. Et ça dépend notamment de la... du nombre d'amendements qui seront ou pas retirés jusque-là. Pour en avoir discuté avec... tu as vu beaucoup de députés, donc tu en as vu plus que moi, mais moi j'ai aussi parlé avec quelques députés insoumis, notamment en fin de semaine dernière à ce sujet. Ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Pour simplifier, ceux qui sont les plus proches de Jean-Luc Mélenchon sont sur une ligne assez décidée, assez ferme, sur le fait qu'il faut pouvoir démontrer que c'est le gouvernement qui a empêché un débat allant jusqu'à l'article 7. Et donc, c'était eux qui étaient sur la ligne la plus dure concernant cette question-là. C'est eux, par exemple, qui souhaitaient que les amendements soient gardés le plus longtemps possible. C'est bien ça ?
Oui, et puis, en fait, tu sais, quelque part, Depuis que j'observe ce débat depuis la semaine dernière, quand même, quelque part, très objectivement, on ne peut pas non plus leur donner tort. La chef des députés écolos me disait qu'elle a fait le compte. La semaine dernière, il y a eu 31 heures de débat. Hier, les débats ont commencé à 16 heures, se sont arrêtés à minuit. Aujourd'hui, ils vont reprendre à 17 heures, s'arrêter à minuit. Demain, ils ne reprendront qu'à 15 heures. Donc, sur une réforme aussi majeure, le gouvernement n'a tout de même pas laissé un temps considérable pour le débat. Certains députés de la NUPES nous expliquent que bien souvent, notamment pendant la crise sanitaire, alors bien sûr les enjeux étaient importants, mais enfin là on parle quand même d'une réforme importante pour les Français, et bien pendant la crise sanitaire, ils siégeaient parfois jusqu'à 6h, 9h du matin, ils ouvraient tous les week-ends, et ils comparent avec le Sénat qui, dans la prochaine partie, là en mars, va siéger le week-end également, ce que n'a pas pu faire l'Assemblée nationale, parce que le gouvernement n'a pas voulu ouvrir le week-end. Donc c'est vrai qu'il faut tout de même rappeler qu'à la base, le nombre d'heures pour une réforme aussi importante est quand même très très restreint. Donc on ne peut pas leur donner tort à ce sujet. Et d'ailleurs, je m'en étonne un peu avec certains députés en ce moment quand je les interroge, parce que tous les députés des autres groupes, notamment les Républicains, notamment le Rassemblement national, écoute, sans dévoiler de secret, j'ai eu un petit déjeuner de presse, comme ça nous arrive régulièrement ce matin avec Jean-Philippe Tanguy, député du Rassemblement national.
Et oui, proche de Marine Le Pen.
Voilà, et il a, pendant les 45 premières minutes de l'entretien, il n'a tapé que sur la stratégie d'obstruction de la NUPES. Et finalement, je lui ai fait observer, mais finalement, le gouvernement, quelque part, s'en sort très bien, parce que plus personne ne met en exergue le fait que, tout de même, ils ont laissé un temps très restreint au débat. Ça, déjà, c'est une première chose. Et puis, la deuxième chose que tu disais concernant les très proches de Jean-Luc Mélenchon, je te confirme, il y a des cadres de la France insoumise hier qui s'interrogeaient encore quant à leur intérêt d'arriver jusqu'à cet article 7 emblématique. Après, il ne faut pas penser que tout s'arrête, notamment après, il y a la pénibilité, notamment après, il y a ces retraites à 1 200 euros, etc. Donc il y aura encore plein d'articles importants qu'ils n'auront pas le temps de voir. Et puis, en même temps, il y a des députés comme Clémentine Autain qui nous disait hier hors caméra qu'elle, elle voulait arriver à l'article 7 et que cette stratégie de l'obstruction, elle n'était pas forcément d'accord avec elle. On a François Ruffin ce matin, même dans la presse, qui demande publiquement à ses collègues députés d'accélérer. Donc on voit
Attends,
tout de même que...
parce que tu parles de François Ruffin. Je te cite ce qu'il disait dans Libération la semaine dernière. J'ai noté sur mon petit cahier. « Je souhaite que l'article 7 soit discuté. C'est le nœud, c'est ce qui compte pour les gens. C'est le moment où nous allons pouvoir évoquer leur vie, confronter ça à la technocratie. C'est le moment où on va voir s'affronter la France des tableaux Excel et la France du réel. » C'est ce que disait donc François Ruffin dans Libération. Et j'ai soumis cette citation à Jean-Luc Mélenchon, que nous recevions jeudi soir dans Face à BFM, pour évoquer justement cette question de l'article 7. Ça a un peu agacé Jean-Luc Mélenchon. Enfin, en tout cas, ça l'a agacé. Disons que lui n'était pas sur la même ligne. Et pour tout dire, juste avant l'émission, j'avais croisé dans le couloir... dans le studio juste avant, et il m'avait dit « Vous allez bien parler de l'article 7 hein, », parce qu'il voulait être sûr que la question serait abordée, parce qu'il avait envie de dire ce qu'il a dit, c'est-à-dire que lui, comme tu l'as rappelé, pense que c'est pas forcément une bonne idée de l'aborder, en tout cas d'aller au vote. Et pour reprendre les mots d'un de ses proches la semaine dernière, il m'avait dit, il faut être complètement idiot. C'est pas Jean-Yves Mélenchon qui me disait ça, mais un député proche de Jean-Yves Mélenchon qui m'avait dit, mais c'est complètement idiot d'aller au vote, puisqu'on n'est pas certain d'avoir de gagner. Ça serait idiot quand même d'offrir un cadeau au gouvernement qui pourrait avoir une majorité sur le texte et ensuite aller dire, regardez, nous avons obtenu une majorité sur l'article le plus important du texte de loi, et donc au fond nous avons une légitimité. De ce point de vue-là, franchement, il me disait, mais franchement, il faudrait être idiot pour aller au vote.
Oui, c'est vraiment la fracture. Mais tu sais, pour rebondir sur ce que dit François Ruffin, la citation dont tu parles, en fait, c'est quelque part un faux débat, parce que en réalité, toutes les questions qu'il aborde dans sa citation, on va parler de la vie des gens, les vrais gens versus les tableaux Excel. En fait, tout ça, on l'entend en permanence dans les débats depuis le début de cette réforme des retraites. Et d'ailleurs, c'était à qui était, entre la majorité et la NUPES, le mieux placé pour parler de la vraie vie des gens. Chacun comparait son parcours avec une certaine crédibilité de comprendre les vrais gens ou pas. Si tu veux, ça, concrètement, pour suivre les débats chaque jour, jour, je l'entends depuis le début. Donc, c'est d'ailleurs ce que disent certains députés. En fait, on parle de ça en vérité depuis le départ. Et ce qui sera vraiment utile d'arriver à cet article 7, je pense tout de même que la sortie de Philippe Martinez a quand même mis une certaine pression. La NUPES avait commencé, enfin en tout cas la France Insoumise avait commencé à accélérer vendredi, donc avant la déclaration de Philippe Martinez. Mais c'est vrai que ça a quand même mis une certaine pression dans les rangs. Et puis tu vois, nous, là, on fait les conférences de presse tous les mardis, chaque groupe, LR, Rassemblement National, etc., fait des conférences de presse. La NUPES, le PS, les écologistes, et c'est la question qui revient en permanence dans la bouche des journalistes. Est-ce que vous voulez aller jusqu'à l'article 7? Est-ce que vous voulez le voter? Du côté des Républicains, on est clair, on veut le voter, et il semblerait qu'il n'ait pas fait une croix sur le fait d'avoir des accords avec le gouvernement qui permettent à son groupe de voter. Mais c'est la question qui revient fondamentalement. Et ça, je pense qu'effectivement, les insoumis ne l'avaient pas forcément vu venir, la pression de la part des syndicats. La CFDT, ils expliquent que c'est un syndicat réformiste qui n'est pas très proche d'eux. Mais effectivement, la sortie de Philippe Martinez a quand même mis une pression dans les rangs insoumis, même si, tu vois, à part Clémentine Autain, François Ruffin, des têtes fortes, mais un peu éloignées, moi, quand même, les députés avec qui je parle au sein de la France Insoumise depuis hier sont quand même alignés sur le fait de ne pas non plus supprimer d'un coup d'un seul 10 000 amendements pour arriver à l'article 7, s'ils ne sont pas certains du vote des Républicains, qui reste quand même le pivot. Et d'ailleurs, un député socialiste me le disait en fin de semaine dernière, il me disait « Mais moi, si j'étais chef de groupe, je serais en permanence en contact avec les Républicains pour essayer de savoir combien véritablement vont voter, combien vont s'abstenir, parce que si on se dit qu'ils ne votent pas, ou en tout cas que la majorité n'a pas la majorité, eh bien, il faut y aller. Exactement. C'est ça qui devrait être fait.
Exactement, voilà. Parce que s'ils arrivaient à l'inverse, ce n'est pas du tout l'hypothèse la plus probable, mais si à l'inverse, ils arrivaient à arriver à un vote qui, d'une certaine manière, a obligé le gouvernement, la Renaissance, à se compter, c'est-à-dire à voir combien de gens seraient prêts à voter publiquement le passage de l'âge légal à 62 à 64 ans. Et si le gouvernement n'obtenait pas une majorité sur cet article-là, mais ce serait une victoire incroyable, et ça blesserait ou ça compromettrait peut-être de façon irrémédiable l'adoption de ce texte d'ici la fin du mois de mars. Donc, au fond, ce serait un risque gigantesque à prendre. Mais il y a aussi une dimension de rapport de force et de poker menteur.
Absolument, et c'est un risque quand même que certains cadres des insoumis, de la France insoumise, n'ont clairement pas envie de prendre. Et puis attention, ce qu'on entend aussi un peu ici, c'est que l'obstruction de la France insoumise, les excès parfois de la France insoumise dans l'hémicycle, eh bien refroidit un peu même certains députés LR qui étaient contre cette réforme, mais qui du coup vont juste s'abstenir pour ne pas être associés à l'obstruction de la France insoumise. Donc il y a quand même des vraies divergences au sein de la NUPES, parce que certains socialistes disent que c'est avec les Républicains qu'il faut parler, qu'il faut se mettre d'accord pour essayer de les convaincre, notamment avec cette espèce de mensonge entre guillemets qu'ils veulent démontrer du gouvernement sur les petites retraites à 1 200 euros, montrer qu'en fait ça touchera très peu de personnes. Ils disent ça peut être un argument pour les Républicains pour voter avec nous. Et puis il y a la France insoumise qui effectivement dans son ADN, depuis le mandat précédent, n'a pas l'habitude, et ça c'est vrai, de dealer en gros des accords avec des oppositions de droite. C'est pas dans leur ADN, ce qui est plus dans l'ADN des socialistes parce qu'ils ont une expérience de gouvernement plus longue, etc. Mais les insoumis, c'est vrai, ne font pas ça.
Tu l'évoquais, il y a aussi le contexte, le rapport de force, l'enjeu de savoir ou pas si tel ou tel article sera examiné et peut-être adopté d'ici la fin de la semaine. Mais il y a ce qui s'est passé en séance, vendredi, autour de Thomas Porte, le député insoumis qui avait posé avec sa bannière, son écharpe de député, le pied posé sur un ballon qui laissait deviner le visage d'Olivier Dussopt. Il y a eu aussi ce qui s'est passé hier après-midi où un député insoumis a utilisé le mot « assassin » concernant Olivier Dussopt. Il parlait de la pénibilité au travail et ça a créé un incident de séance à l'Assemblée nationale. Je ne voudrais pas qu'on revienne en détail sur ces deux moments que tu nous as racontés à l'antenne et qui sont probablement dans la tête de ceux qui nous écoutent. Mais qu'est-ce que ça dit du rapport de force entre l'opposition et la majorité, rapport de force au sein même de la NUPES, au sein même des Insoumis, cette conflictualité qui est cherchée et dans une large mesure assumée par les Insoumis et plus précisément par les proches de Jean-Luc Mélenchon, parce que là on parle bien de proches de Jean-Luc Mélenchon.
Moi je distinguerais quand même les deux événements.
D'accord.
Parce que l'événement Thomas Porte, qui prend la parole l'après-midi même où il a posté cette
oui,
photo...
Parce que l'incident ne se pose effectivement, pas... Il n'y a pas d'incident à l'Assemblée nationale.
Non.
C'est une photo qui est prise en extérieur oui. Et qui est postée par Thomas Porte sur son compte Twitter.
Et d'ailleurs qui est postée la veille. Et le matin, si tu veux, au début des débats, Olivier Dussopt revient un peu dessus, très en colère dans une intervention, mais personne ne demande de sanctions au sein de la majorité... Personne ne demande rien. Sauf que Thomas Porte a trouvé opportun ce jour-là de prendre la parole dans l'hémicycle. Et c'est ça, en fait, qui a réveillé un peu la très forte hostilité de la majorité. Mais, si tu veux, je distingue ces deux événements parce que cet événement-là n'a pas eu lieu, finalement, dans l'hémicycle. Hein, l'atteinte au ministre n'a pas eu lieu dans l'hémicycle, mais c'est un tweet. Et puis, surtout, là, les Insoumis étaient vraiment soudés autour de Thomas Porte.
D'accord.
Ce qu'on a vu hier... au moment où le député Saint-Toul prend la parole et dit ses propos au ministre Dussopt, là on sent tout de suite que personne n'a vu venir ce dérapage, que c'est un dérapage. La France Insoumise était déjà dans sa stratégie de vouloir accélérer les débats, etc., d'accord avec leurs partenaires. Ça a fait une fracture supplémentaire avec les partenaires. Et on a tout de suite vu que les Insoumis n'étaient absolument pas solidaires de cette prise de parole. D'ailleurs, tout de suite, nous disent-ils, le député lui-même a voulu s'excuser, ce que n'a pas fait Thomas Porte. Et les députés Insoumis ont expliqué que c'était une expression maladroite et qu'elle n'avait pas lieu d'être dans l'hémicycle. Et puis surtout, quand même, ce qui est tragique, enfin moi je trouve ce qui est difficile pour la NUPES, là, ce qu'on a vu, c'est tous les présidents de groupe successifs des partenaires de la NUPES, Bruno Vallaud pour le Parti Socialiste,
Boris
Cyril
Vallaud.
Châtelain pour les écologistes et... Boris Vallaud, pardon, et surtout André Chassaigne,
oui.
Président des communistes, qui, tour à tour, prennent la parole dans l'hémicycle pour dénoncer très fermement les propos du député insoumis. Et ça, on sait que ça vient un peu de loin, que depuis la semaine dernière, ces partenaires-là ne sont pas sur la même ligne d'opposition que les insoumis, un peu agacés parfois par les excès de voix, par les excès de bruit et par les excès d'amendements. On sait qu'ils ont fait pression, ces partenaires, pour que la France insoumise supprime des amendements, parce que c'est quand même pas dans l'ADN de la France insoumise de supprimer des amendements lors de la précédente réforme des retraites en 2019. Ils n'avaient rien supprimé du tout. Donc on sait qu'ils le font sous la pression de leurs partenaires. Et là, c'est vrai que l'image était quand même désastreuse pour la NUPES de voir tour à tour tous les présidents groupes partenaires dénoncer ces propos. D'ailleurs, un cadre de la France Insoumise me disait, parce que c'est vrai que dès la reprise de séance, le député Saint-Toul en question a tout de suite levé la main pour prendre la parole. On savait, les socialistes sont tout de suite venus nous dire qu'il allait s'excuser. Donc il a levé la main pour prendre la parole. Et le président de séance, à ce moment-là, Sébastien Chenu, a préféré donner la parole à tous les présidents de groupe avant qu'ils s'expriment. Et un cadre des Insoumis me disait, on n'était pas obligé de passer par cette période un peu de pugilat, il aurait pu s'excuser tout de suite et l'incident était clos. Et c'est vrai que ça continue à fracturer un peu la NUPES.
C'est aussi, au-delà du fond de ce qui a été dit, des propos, enfin, et tu as raison de souligner que les deux événements que j'ai cités n'ont pas grand-chose à voir l'un avec l'autre, mais est-ce que ces moments-là ne sont pas aussi une distraction par rapport à ce qui devrait être l'attention principale des parlementaires et des Français en ce moment, c'est le fond de la réforme des retraites. Est-ce que, pour faire simple, pour une partie des députés de gauche, ça doit être agaçant de voir que l'attention médiatique, l'attention politique se focalise sur des incidents de séance plutôt que sur le fond de la réforme, le passage de l'âge légal de 62 à 64 ans, et que ça peut se retourner, je ne dirais pas dans l'opinion en général, mais que ça peut susciter une forme d'agacement au moment où ce mouvement contre la réforme des retraites est soutenu par une majorité de l'opinion. On le voit dans les sondages, on voit qu'il y a beaucoup de monde dans la rue. Il y a aussi cette dimension-là de distraction qui est importante à comprendre dans leur stratégie.
Ah, mais ça, c'est tu mets le doigt sur la ligne majeure de fracture entre justement les partenaires de la NUPES, entre écologistes et socialistes, qui sont très franchement pas du tout fans, hors micro, de la stratégie des Insoumis. Et puis les Insoumis qui continuent, hein, mais même hier, ils nous disaient, alors pas avec des incidents comme ce qui s'est passé hier, ce que je te racontais, mais qui globalement eh bien, continuent à assumer que les gens dans la rue, la mobilisation sociale, leur demandent une opposition très forte. Ils savent que c'est un pari qu'ils font. Hein. Moi, ils me le disent, on ne sait pas si finalement ça portera ses fruits, mais nous, on prend le pari qu'il faut s'opposer fermement pour montrer aux Français qu'ils ne sont pas tout seuls à s'opposer à cette réforme et que nous le faisons au sein de l'hémicycle. Mais évidemment, c'est une stratégie qui a un risque énorme, c'est que eh bien, nous parlons aussi des dérapages et pendant ce temps-là, nous ne parlons pas du fond. En même temps, il est quand même difficile de parler du fond. Tu vois, j'ai fait un compte, ne serait-ce que vendredi, il y a eu, je ne te parle pas après, à partir de 23h, mais dans la journée, en fait, il n'y a eu que 2 heures de débat de fond. Tout le reste était interruption de séance. Donc, c'est quand même compliqué. Mais ça, c'est un pari qu'ils font. Ils continuent à parier là-dessus, aux grandes dames de leurs partenaires. Et quelque part, si on prend un peu de recul et qu'on regarde ça de loin, ben on se dit que ça arrange quand même sacrément bien la majorité qui n'est pas non plus la première, pour être tout à fait franche, à gagner du temps sur les débats.
Oui, parce que par ailleurs, elle joue aussi la montre, à tout ça. La majorité.
Bien sûr. Beaucoup de députés, quand même, des oppositions nous disent « Ah, la majorité, ça ne les arrange pas d'aller sur l'article 7 ». Et on sait qu'il y a quand même des députés qui sont un peu frileux là-dessus, donc ça les arrange bien. Donc ils font en même temps les affaires du gouvernement. Oui, c'est une stratégie à risque.
Pour, j'aime pas trop faire de prospective hypothétique, mais quand même, on peut dessiner un scénario plus probable que d'autres, c'est que l'article 7 soit abordé d'ici vendredi soir minuit, soit donne lieu à un débat de quelques heures à l'Assemblée nationale, mais que ce débat n'aille pas au vote, ce qui permettra à des députés de la NUPES de dire « Ah, regardez, c'est parce que le gouvernement a choisi cette procédure que la discussion ne va pas au bout, qu'il n'y a pas de vote sur cet article très important », qu'au fond, le texte parte au Sénat, qu'au Sénat, la discussion ait lieu dans une atmosphère très différente parce que justement il y a le soutien de la droite sénatoriale sur le texte et donc il n'y aura pas de difficulté pour le gouvernement à trouver une majorité sur ce texte au Sénat, même s'il y aura des amendements et que l'équilibre et certains équilibres vont peut-être bouger un peu au Sénat, que le texte reviendra à l'Assemblée donc autour de la mi-mars, une commission mixte paritaire dans laquelle la version du Sénat sera pèsera lourd et que au fond les députés n'auront à se positionner réellement sur le texte et sur le principe du change du passage de l'âge légal de 62 à 64 ans qu'autour du 20-25 mars. Et c'est là, c'est à ce moment-là que sera le moment de vérité. C'est ça le scénario le plus probable ?
Oui.
Tu es dubitative ?
Bah parce que, en fait, oui, c'est le scénario le plus probable. Mais il y a quand même la mobilisation sociale
avec,
au milieu.
Oui, avec une mobilisation sociale dans tout ça, évidemment.
Voilà, donc qu'est-ce qu'elle va donner, cette mobilisation sociale ? Finalement, on ne sait pas. Nous, on entend quand même un peu d'ici que le Sénat n'a pas spécialement envie de durcir le texte, qui pouvait être dit au début. Mais effectivement, dans cette fameuse commission mixte paritaire dont tu parles, les débats seront plus...
On va expliquer ce que c'est d'un mot. C'est après, après que le texte ait été examiné à l'Assemblée, puis examiné au Sénat, sénateurs et députés se retrouvent ensemble, discutent, trouvent une version commune, d'une certaine manière, et une fois qu'une version commune a été trouvée entre sénateurs et députés, le texte est réexaminé à l'Assemblée nationale de façon beaucoup plus rapide pour qu'elle soit votée à l'Assemblée puisque les députés ont le dernier mot.
Et ce qu'il faut aussi rappeler tout de même, c'est que le débat sera plus serein au Sénat parce que traditionnellement c'est le cas, mais surtout ils auront plus de temps tout de même parce qu'ils auront les week-ends ouverts. Ce qui n'a pas été le cas à l'Assemblée. Donc le texte va revenir justement dans cette commission mixte paritaire avec un texte qui sera venu du Sénat à majorité de droite. Donc sans doute qu'Olivier Marleix, le patron du groupe des Républicains à l'Assemblée nationale, puisque c'est lui qui choisit les députés qui vont siéger à la commission mixte paritaire, tu sais, c'est suivant le nombre de députés que tu as dans l'hémicycle, tu as des sièges dans cette commission. Bon, sans doute, ne va-t-il pas choisir des députés hostiles à cette réforme et donc, globalement, là, on ne voit pas comment ça ne passe pas. Mais, entre-temps, on a le 7 mars, la France sera-t-elle à l'arrêt, cette grève va-t-elle prendre ? quel effet ça aura sur le gouvernement. Voilà, moi, c'est quand même ces interrogations que je me pose. Ce qui est certain, c'est que ce que tu as expliqué sera le scénario, effectivement, parlementaire le plus probable.
Tu as raison de préciser. Dans le scénario le plus probable que je dessine, au fond, les députés, l'Assemblée nationale dans son ensemble, aura renoncé à une partie de son rôle en n'allant pas jusqu'au bout du texte et en ne votant pas les éléments essentiels du texte. Les sénateurs auront un rôle prééminent, donc ça se tranchera, ça se réglera autour de la mi-mars, autour du 20 mars. Mais entre-temps, tu as raison, il y a cette date du 7 mars, la France à l'arrêt, pour reprendre les mots de l'intersyndicale, avec certains syndicats le disent, pas tous, la possibilité de grève reconductible, donc 7 mars, 8 mars, 9 mars, etc. Et franchement, il faudrait être devin ou un peu audacieux pour deviner aujourd'hui dans quel état d'esprit seront les Français dans 3 semaines, un mois maintenant, puisque nous sommes le 14 février. Où en sera-t-on mi-mars? Est-ce que les Français auront évidemment cédé à une forme de résignation, comme le pense la majorité? Mm-hmm. Ou est-ce que la mobilisation dans la rue, des blocages à partir du 7, bougeront le rapport de l'opinion par rapport à cette question-là? Est-ce que le soutien majoritaire de l'opinion à ceux qui comptent à cette réforme des retraites va s'émousser ou au contraire se renforcer? C'est très difficile à dire à ce stade. Et donc effectivement, comme tu l'as dit, ça ne se jouera pas peut-être essentiellement à l'Assemblée nationale, mais peut-être dans la rue. En tout cas, ça sera intéressant.
Oui, et puis c'est ce qu'ont intégré beaucoup de députés. Je voudrais juste rajouter pour conclure, je répète, mais je trouve quand même que c'est important, il ne faut pas qu'on perde ça de vue. Tu dis l'Assemblée ne va pas, aura abandonné de jouer son rôle dans cette réforme.
Je simplifie, mais c'est un petit peu ça.
Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que rappelons quand même qu'il aurait été tout de même très difficile pour une réforme d'une telle ampleur qui entraîne tant d'opposition même dans le pays, d'examiner en 9 jours de débat les 20 articles. Donc de toute façon, une partie de la réforme n'aurait pas pu être discutée, même s'il y avait eu beaucoup moins d'amendements. C'est aussi important de se dire que les oppositions se crispent, mais le gouvernement, effectivement, met des outils... trouve des outils qui restreignent Absolument. Les débats. Et d'ailleurs, c'est une question Absolument. Que je posais aux Républicains tout à l'heure, à Olivier Marleix, le patron des Républicains, qui ne s'en émeuvait pas plus que ça. Et je lui ai dit, donc il faut s'habituer à ce que les débats soient de plus en plus restreints. Et aujourd'hui, ça, c'est des choses que les députés ont tout à fait intégrées. Mais il y a 10 ans, 20 ans, ça ne se passait pas comme ça. Tout de même, on avait plus de temps de débat à rappeler. Quand même.
Effectivement, c'est ce qu'essaie de démontrer ceux chez Insoumis qui veulent empêcher un vote sur l'article 7, c'est que la responsabilité de cette impossibilité d'aller jusqu'au bout du texte à l'Assemblée nationale revient non pas aux députés de l'opposition, mais au gouvernement qui a fait le choix de cette procédure parlementaire exceptionnelle du 47.1. Donc effectivement...
Disons que c'est une responsabilité partagée.
On va finir là-dessus, on dit ça comme ça.
Voilà, exactement.
Merci beaucoup, Perrine.
Allez, merci
bon courage,
à toi, hein,
parce
Philippe.
Que...
On se reparle en
bon
fin
courage,
de semaine.
Parce que des heures de séance,
on verra où on en
lourd.
Sera.
Salut.
Oui. Salut.
Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouvera dans les prochains jours pour vous faire vivre ce débat sur la réforme des retraites. D'ici là, abonnez-vous sur vos plateformes de téléchargement et n'hésitez pas à mettre des commentaires. Merci.